Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes à l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, verset 21, dans les polycopiés qui couvrent les chapitres 1 à 5 de l'évangile selon Saint Luc, à la page 5. Bon, ce chapitre 1, premier de Saint-Luc, est certainement un des plus beaux des quatre évangiles, donc à bien connaître. Nous en sommes au début donc de l'évangile, avec l'apparition de l'ange Gabriel à Zacharie, Saint Zacharie, qui va devenir le père de Saint Jean-Baptiste. Donc voilà, nous en sommes, versets 21 et 22 du chapitre 1er de Saint-Luc. Cependant, le peuple attendait Zacharie et on s'étonnait qu'il s'attardât dans le temple. Mais étant sorti, il ne pouvait leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et lui leur faisait des signes et il demeura muet. Alors, la tradition nous dit, et les pères nous disent que Zacharie a tardé dans le temple à cause de l'ange. Et aussi parce qu'il méditait les paroles de l'ange. Je vous ai déjà expliqué que Zacharie va être puni pour son manque de foi. Et voilà pourquoi il est devenu muet jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et d'après certains textes des pères, il serait même devenu aveugle. La très sainte Vierge Marie, au contraire, n'a pas accepté le moindre doute dans son âme, après le message de l'ange. Elle a simplement voulu vérifier que c'était de Dieu. Quand on a un esprit qui vient nous frapper à la porte, il faut d'abord vérifier que cet esprit vient de Dieu. Parce que l'ange des ténèbres, le démon Lucifer, peut se déguiser en brebis en mettant sur ses épaules une peau de brebis, justement. Donc il faut faire attention. Verset 23. Lorsque les jours de son ministère furent écoulés, il s'en alla dans sa maison. Ce que disent les pères sur ce verset, pendant le temps de son office comme prêtre, Zacharie s'abstint de tout commerce avec sa femme. Combien plus alors l'abstinence perpétuelle est-elle nécessaire pour le prêtre du Nouveau Testament qui offre quotidiennement le sacrifice de l'autel? Donc les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient pas le caractère sacerdotal. Cependant, ils étaient prêtres quand même, d'une certaine façon, et donc lorsque ils étaient en office dans le temple, eh bien, ils s'abstenaient de tout commerce charnel avec leur épouse. Au contraire, le prêtre du Nouveau Testament, le prêtre catholique, qui est lié par le caractère du sacrement de l'ordre, lui est tenu à la chasteté parfaite, parce qu'il n'est pas en service simplement certains temps de la semaine, ou de l'année, ou du mois, il est en service 24 heures sur 24, et donc il est consacré au bon Dieu de façon perpétuelle. Versets 24 et 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut. Elle se tenait cachée durant 5 mois, disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au jour où il m'a regardé afin de me délivrer de mon opprobre parmi les hommes. » Alors attention, je vous l'ai déjà expliqué, il faut que les choses soient claires. La naissance de Saint Jean-Baptiste est une naissance naturelle. La conception de Saint Jean-Baptiste est une conception naturelle. La conception, la grossesse et la naissance de Saint Jean-Baptiste, du sein de sa mère, Sainte Élisabeth, est purement naturelle, même s'il y a eu miracle, dans le sens que sa mère, Sainte Élisabeth, était trop âgée pour avoir des enfants. Alors qu'au contraire, la conception de la très sainte Vierge Marie est surnaturelle dans son début, bon, la conception, s'il y a conception sans intervention de la semence d'un homme, elle est naturelle dans les 9 mois dans le sein de sa mère, parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est développé naturellement après sa conception miraculeuse dans le sein de sa mère pendant 9 mois, comme tous les enfants. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est également miraculeuse parce qu'elle est passée par le sein de la Vierge sans briser le sceau de sa virginité. Encore une fois, elle est vierge avant, durant et pendant. Avant, pendant et après la naissance. Donc, Saint Jean-Baptiste fut conçu le 24 septembre, au temps de l'équinoxe d'automne, et il est né au solstice d'été, jour à partir duquel leur longueur commence à diminuer. Au contraire, le Christ fut conçu à l'équinoxe de printemps, et il est né au solstice d'hiver, date où les jours commencent à augmenter en longueur. Rappelez-vous la phrase à propos de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse. À propos de notre Seigneur, mais prononcé par Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, que le Seigneur croisse et que moi je diminue. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est né au cœur de l'hiver, le 24 décembre au soir, le 25 décembre, au moment précis où les jours vont commencer à rallonger, pour bien montrer qu'il va prendre de plus en plus de place dans le monde en tant que créateur et rédempteur, en tant que roi. Au contraire, Saint Jean-Baptiste, à partir du moment où la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ c'est fait, notre Saint Jean-Baptiste va décroître de plus en plus. Donc il est né au cœur de l'été et va diminuer, après va perdre de son intensité pour laisser la place à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les pères de l'Église font remarquer que Saint Jean-Baptiste est conçu pendant des jours de jeûne, car il devra prêcher aux hommes les austérités de la pénitence. Les pères de l'Église, pratiquement tous, sont d'accord que le monde a été créé un 25 mars et que le Christ mourut un 25 mars, date également de son incarnation. Donc le monde a été créé le 25 mars. La très sainte Vierge Marie a conçu du Saint-Esprit le 25 mars et notre Seigneur Jésus-Christ est mort également un 25 mars. Donc il y a un sens caché, si vous voulez, à cette date du 25 mars. Donc mystiquement, disent les pères, Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, représente le sacerdoce judaïque. Élisabeth, la loi, qui développée par les explications des prêtres, devait engendrer à Dieu des enfants spirituels, mais qui restaient impuissantes et stériles. Tous les deux étaient avancés en âge, parce qu'à la venue du Christ, les hommes étaient pour ainsi dire courbés sous le poids des ans. Donc les hommes, à cause du péché d'Adam et Ève, des conséquences du péché d'Adam et Ève, les hommes étaient devenus stériles, spirituellement stériles. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ va guérir de cette stérilité spirituelle et rendre le genre humain stérile de nouveau. Va rendre le genre humain capable d'enfanter spirituellement de nouveau. Donc le péché représente la stérilité. Et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère de l'incarnation, qui se concrétise le 25 décembre par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, représente la guérison de cette stérilité spirituelle et le retour à un enfantement spirituel. Et de nouveau, la grâce sanctifiante est capable de fleurir dans les âmes et les portes de l'enfer, directement les portes du ciel, qui avaient été closes à cause du péché d'Adam et Ève, vont se rouvrir au moment de la fin de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le 25 mars, le jour où il est mort sur la croix. Plus exactement, notre Seigneur va en fait réouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché originel, le jour de son ascension dans le ciel. Donc Zacharie entre dans le temple, parce que c'est au prêtre qu'il appartient de pénétrer dans le sanctuaire des mystères célestes. Vous savez que seul le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu dans lequel était gardé le tabernacle de l'Ancien Testament. Le tabernacle des Juifs contenait simplement une urne avec la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. D'ailleurs, cela laisse un peu rêveur, parce que quand on voit le respect qui était dû au tabernacle de l'Ancien Testament, qui ne contenait pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne contenait que des signes de notre Seigneur Jésus-Christ, à tel point que seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer dans le Saint des Saints, et que quiconque touchait sans être grand prêtre, touchait sans être prêtre, touchait le tabernacle était condamné à mort, cela laisse rêver en pensant à la dignité que nous, catholiques, nous avons d'avoir dans notre maison le tabernacle qui contient non plus la manne ou la verge d'Aaron ou les tables de la loi, mais l'auteur des tables de la loi, celui qui a fait le miracle de la manne, celui qui a fait le miracle de la verge d'Aaron, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il faut comprendre ces choses-là. Moi j'y pense souvent, j'habite dans un petit appartement et dans cet appartement j'ai mis la plus belle pièce de la maison, le salon, que j'ai transformé en chapelle, qui est assez jolie d'ailleurs, grâce à Dieu, et dans cette chapelle j'ai la présence réelle, puisque j'ai le tabernacle qui est là sur l'autel, avec la lampe du Saint-Sacrement qui brûle en permanence, et dans ce tabernacle repose notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et donc ma chambre, qui est à quelques mètres du salon, et quand je suis dans ma chambre ou dans mon bureau, qui est dans le même appartement, je pense que à quelques mètres de moi, j'ai l'auteur du monde, le créateur du monde, le rédempteur universel du monde, qui est là dans le tabernacle et qui attend mes adorations et qui attend les adorations des fidèles. Donc la multitude se tenait au dehors du temple, parce qu'elle ne peut pénétrer le secret des choses spirituelles. Donc la multitude était devant, mais n'avait pas le droit de pénétrer dans le Saint des Saints. Tandis que Zacharie place l'encens sur l'autel, la naissance de Jésus-Christ lui est révélée. C'est en effet lorsque les docteurs sont embarrassés du feu divin que renferment les saintes lettres, qu'ils découvrent la grâce de Dieu qui se répand par Jésus-Christ. Celui-là est muet, qui ne comprend pas la loi. Donc le mutisme qui a frappé Zacharie représente le mutisme spirituel de celui qui ne veut pas ouvrir son intelligence pour comprendre la loi divine. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que les différentes affections des sens physiques de notre corps représentent dans l'Écriture sainte l'affectation des sens spirituels de notre âme. Donc l'aveuglement physique représente la cécité spirituelle. Le mutisme physique représente le mutisme spirituel. C'est la même chose pour chacun des sens. Donc Élisabeth va cacher cette conception pendant 5 mois, parce que Moïse a renfermé dans ses 5 livres les mystères du Christ, ou parce que toute l'économie de la rédemption de Jésus-Christ a été figurée dans les 5 âges du monde par les paroles et les actions des saints. Voilà l'humilité d'ailleurs de Sainte Élisabeth, qui aurait pu au contraire montrer à tout le monde sa grossesse miraculeuse, dans le sens qu'elle était trop âgée pour avoir des enfants par la voie naturelle, par les lois naturelles. Eh bien elle se cache pour méditer justement sur la grandeur du mystère qui s'accomplit en elle. Saint Luc, verset 26 du chapitre 1. Or au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là, on arrive à un passage clé du Nouveau Testament, donc l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, l'accomplissement du mystère de l'Annonciation. Donc Saint Michel préside aux prières et aux offrandes des fidèles, et son nom signifie « qui est comme Dieu ». Pourquoi « qui est comme Dieu » Parce que l'Écriture sainte, la tradition nous dit que lorsque il y a eu dans le ciel un combat terrible entre les bons anges et les mauvais anges, Dieu a envoyé Saint Michel chasser Lucifer et le tiers des anges qu'il avait suivis du ciel, et les a précipités en enfer. Et pour précipiter sous l'ordre de Dieu les mauvais anges en enfer, Saint Michel s'est contenté de dire aux démons « Quid ut Deus est ?» Qui est comme Dieu ? Ça voulait dire « Pour qui vous prenez-vous ? » En fait, le péché de Lucifer, c'est un péché d'orgueil. Il s'est pris pour Dieu. Parce que c'est la prérogative de Dieu seul d'entendre les prières des pénitents. Donc c'est Saint Michel qui offre les prières et les offrandes des fidèles. Saint Raphaël, au contraire, préside à la guérison des corps, parce que c'est lui qui rendit la santé à Tobie quand celui-ci était aveugle. Et son nom signifie la médecine de Dieu, le médecin de Dieu. Saint Gabriel, au contraire, celui qui va intervenir dans le mystère de l'incarnation, celui qui va intervenir aussi pour annoncer la naissance de Saint Jean-Baptiste à Saint Zacharie, Saint Gabriel représente la force de Dieu, Donc Saint-Michel, qui est comme Dieu, Saint-Raphaël, la médecine de Dieu, et Saint-Gabriel, la force de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il préside aux conflits et aux guerres des fidèles. Donc la pièce, il faut savoir ça aussi, la pièce dans laquelle le Christ s'est incarné fut consacrée comme église par Saint-Jacques. Vous savez que cette pièce dans laquelle le mystère de l'incarnation a lieu, c'est-à-dire la pièce dans laquelle l'ange Gabriel est venu voir la très sainte Vierge Marie, elle lui annonçait qu'elle avait été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Eh bien, le bon Dieu n'a pas voulu que cette maison sacrée, entre toutes, à cause du mystère de l'incarnation qui s'était accompli en son sein, eh bien, le bon Dieu n'a pas voulu que cette maison tombe aux mains de l'islam. Et il a fait plusieurs miracles à ce sujet. On appelle cette maison la maison de Lorette. Elle a d'abord été miraculeusement transportée en 1291 en Dalmatie, Raonisa. Et Notre-Dame va même apparaître à l'évêque du lieu qui était malade pour lui annoncer que cette maison qui était apparue miraculeusement dans ce village de Dalmatie était la maison dans laquelle le mystère de l'incarnation a eu lieu. Et quelques années plus tard, la maison va de nouveau s'envoler, portée par les anges, en 1294. Et elle va aller à Recanatis, en Italie. Et comme elle s'est déposée dans une propriété qui appartenait à une dame qui s'appelait Lorette, on appelait cette maison à partir de ce moment-là la maison de Lorette. Et pour être sûr qu'elle ne s'envola pas de nouveau, emportée de nouveau par les anges, les Italiens ont vite construit au-dessus de cette maison miraculeuse une église. Et donc la maison de Lorette, lieu de l'incarnation, est enchâssée dans une église. Évidemment, les modernistes les rationalistes de tout poil ont nié le fait, en disant que c'était une invention, que c'était impossible que des anges puissent transporter une maison, parce que comme tout le monde le sait, les anges ça n'existe pas, il paraît. Alors, des enquêtes ont été faites, des enquêtes très, très spéciales ont été faites. On s'est aperçu donc que les fondations de cette maison, les pierres de fondation, correspondent exactement au lieu qui avait été laissé libre, à l'endroit d'où venait cette maison en Palestine, donc à Nazareth. Les pierres étaient du même type que la pierre des maisons de là-bas, et on trouvait même dans les murs de cette maison d'Albanie, de cette maison de Lorette, on trouvait les mêmes pollens qui n'étaient trouvés qu'en Terre Sainte. Alors c'est quand même extraordinaire de voir que Dieu n'a pas permis que la maison soit profanée par l'islam. Donc la conception est comme la première naissance d'un homme, mais à sa conception, l'âme du Christ était déjà pleine de science, de grâce et de force. Alors, voyons le verset 27 du chapitre 1er de Saint-Luc. Donc l'ange Gabriel est envoyé auprès d'une vierge mariée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors attention, là j'insiste beaucoup sur ce point qui est important. La très sainte Vierge Marie était mariée avec Saint-Joseph et pas fiancée, comme le disent les modernes. Donc la très sainte Vierge Marie et Saint-Joseph étaient mariés, religieusement mariés, selon les coutumes juives. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais ils étaient mariés et pas fiancés. C'est très important, parce que beaucoup de jeunes utilisent cette faute de traduction, qui est une faute tout à fait volontaire, hélas, chez les modernistes, qui disent toujours que la très sainte Vierge Marie n'était que fiancée à Saint-Joseph. Ils utilisent ça comme une excuse, en quelque sorte, pour vivre avant le mariage ensemble, en situation de fornication, en disant, la très sainte Vierge Marie pouvait déjà être avec Saint-Joseph, alors qu'elle n'était que fiancée. Non, elle n'était pas fiancée, elle était mariée. Desponsata, le terme utilisé dans la langue latine, signifie mariée et pas fiancée. Sponsa en latin c'est l'épouse, sponsus l'époux, donc desponsata c'est celle qui est mariée. Donc la très sainte Vierge Marie était mariée et non pas fiancée. Donc, vous voyez à la page 6 sur le polycopier, donc j'ai mis ici quelques explications, tirées des pères, desponsata, donc Marie était mariée avec un mariage véritablement contracté, bien que jamais consommé. Pourquoi la Sainte Vierge Marie est vierge? Il est de foi, foi catholique, que la Sainte Vierge Marie a toujours préservé sa virginité, et que même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ s'est faite de façon miraculeuse, l'enfant passant à travers le sein maternel, comme la lumière à travers une pièce de verre, disent les pères de l'Église. Et donc en respectant le sceau de la virginité de notre Sainte Vierge Marie. Notre-Dame est la mire, la maîtresse, la reine de la mer, mère de ce siècle. Elle vient sauver ceux qui sont perdus pour les conduire au port de la terre promise qui est le ciel, celle qui illumine l'étoile de la mer, parce qu'elle engendre la lumière du monde, la pluie qui arrose les terres desséchées. Donc on voit tous ces symboles qui sont magnifiques. Donc la Sainte Vierge Marie et l'étoile de la mer, dans le sens, c'est un petit peu comme la lumière du phare qui indique l'entrée du port. Donc je suis sur un bateau complètement perdu dans le brouillard, dans la tempête, je cherche l'entrée du port, la passe qui va me permettre de trouver une eau tranquille dans le port, protégée par la jetée, je dois trouver la lumière du phare. Bien, ce phare, c'est la Sainte Vierge Marie. Et le phare se déplace et vient au bateau, le bateau perdu, donc la Sainte Vierge Marie vient jusqu'au bateau pour indiquer au capitaine du bateau la direction à prendre pour trouver l'entrée de la passe qui permet de rentrer dans le port et de protéger la cargaison du bateau. Le bateau, c'est évidemment l'âme du catholique, l'âme de celui qui cherche Dieu. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui le cherche avec humilité. Il y a quelques jours, on m'a téléphoné pour me demander pour une retraite supplémentaire que je vais donner. Au mois d'août, je prêche une retraite supplémentaire au mois d'août du 10 au 15 août. Je peux prendre encore une personne éventuellement. Et une personne m'a téléphoné pour me demander si elle pouvait venir faire la retraite alors qu'elle n'était pas dans la tradition catholique, qu'elle était complètement moderniste. Je dis oui, bien sûr, cette personne peut venir à condition qu'elle cherche le vrai. Toute personne qui cherche le vrai est la bienvenue à ses retraites. D'ailleurs, à ce propos-là, donc je précise que j'ai eu encore des annulations pour la prochaine retraite. Donc j'ai deux places libres pour la retraite du 22 au 27 juin. Je prends encore deux personnes et j'ai également de la place pour les retraites du mois de septembre, du 7 au 12 septembre et du 28 septembre au 3 octobre. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, veuillez me contacter pour que je vous réserve une chambre avec le... La crise du coronavirus flanquait un peu le pagaille dans toutes les inscriptions de retraite et je vais avoir très peu de retraitants malheureusement cette année. Enfin, c'est comme ça. Bon Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc la Sainte Vierge Marie a toutes ces titres de gloire. Donc elle est reine de la mer, elle est étoile de la mer. Elle est aussi médiatrice de toutes les grâces et comme le point d'aboutissement de toutes les grâces reçues par les anges, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs et les vierges. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il fallait d'abord défendre les points les plus importants de la foi catholique. Pour savoir quels sont les points les plus importants de la foi catholique, il suffit de voir quels sont les points qui sont niés par nos ennemis. Le plus grand ennemi de la foi catholique, c'est Bergoglio. Or, Bergoglio a osé nier la médiation de la Sainte Vierge Marie et le fait que la Sainte Vierge Marie soit reine. Donc il faut beaucoup insister sur le fait que la Sainte Vierge Marie est reine. La fête de Marie reine a été instituée, je crois, par le pape Pie XII, c'est pas pour rien, le 31 mai. La Sainte Vierge Marie est vraiment médiatrice de toute grâce parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. Précisément parce que les modernistes nient ce point essentiel de la foi catholique, il faut insister sur ce point. Donc, insistons beaucoup sur le fait que Marie, la Sainte Vierge Marie, est réellement médiatrice de toute grâce. Elle n'est pas, elle est co-rédemptrice, elle n'est pas rédempteur, mais elle est rédemptrice d'intercession. Donc, les pères de l'Église font également remarquer que Ave, le premier mot du message de l'ange, Ave Maria, c'est la salutation de l'ange à la Sainte Vierge Marie. Ave est le contraire de Ève. Eva, Ave, c'est A-V-E, c'est le contraire de Eva, E-V-A, qui était le nom en latin de la première femme. Parce que la Sainte Vierge Marie va tourner la malédiction d'Ève en bénédiction. Donc Marie a refait la paix entre Dieu et les hommes, disent les pères, elle a détruit la mort et nous a rendus à la vie. Donc si Ève est l'auteur du péché, Marie est l'auteur du mérite. Donc les pères de l'Église font remarquer que le péché est arrivé dans le monde par une femme et la rédemption va arriver par une femme. La Père Sainte Vierge Marie va rattraper en quelque sorte la prévarication de la première femme. Ceci dit, il faut bien remarquer que le péché n'est pas passé à la postérité d'Adam et Ève à cause du péché d'Ève, mais à cause du péché d'Adam. J'ai déjà expliqué qu'Adam a péché en tant que chef de famille. Donc le péché d'Adam est beaucoup plus grave que le péché d'Ève. On pourrait presque dire que Ève a péché par faiblesse, alors qu'Adam a péché par malice, parce qu'il était chef de l'humanité. Donc, par sa chute, il a entraîné toute l'humanité avec lui. Saint Thomas d'Aquin explique que si Ève seule avait péché, et qu'Adam n'avait pas péché, n'avait pas mangé la pomme de la liberté, la pomme du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien le péché originel ne serait pas passé à la succession, à la descendance d'Adam et Ève. Donc c'est à cause du péché d'Adam que le péché originel s'est répandu dans toute l'humanité. Donc Ève est l'auteur du péché, mais Marie est l'auteur du mérite. Donc la deuxième femme va enlever la catastrophe provoquée par la première femme. C'est pour cela que la liturgie catholique parle de « O Felix culpa, O faute bienheureuse ». La faute bienheureuse, c'est la faute d'Adam et Ève. Incroyable, mais l'Église va jusqu'à dire que cette faute est bienheureuse dans le sens que cette faute a permis l'arrivée du Rédempteur. Selon saint Thomas d'Aquin, s'il n'y avait pas eu de péché originel, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Bon, ceci n'est pas partagé par tous les pères, parce que vous savez que les franciscains pensent que même si Adam et Ève n'avaient pas péché, notre Seigneur se serait incarné, parce que l'incarnation, c'est la plus belle chose qui se soit passée dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, la première femme a détruit, la deuxième femme a guéri. La désobéissance a été transformée en obéissance. La perfidie, c'est-à-dire l'infidélité, en foi. Donc ça, c'est un petit détail qu'il faut bien que les fidèles se mettent dans la tête. Le mot perfide qu'on trouve dans la liturgie, entre autres dans la liturgie du Vendredi Saint, doit pas être traduit par le mot perfide en français, mais par le mot infidèle. Infidèle dans le sens celui qui n'a pas la foi. Donc quand on prie pour les juifs perfides au Vendredi Saint, on prie pour les juifs qui n'ont pas la foi. C'est ce que ça veut dire. Donc le Christ est plein de grâce comme une source ou une fontaine, la Vierge est pleine de grâce comme une rivière. Saint Étienne, lui, premier martyr, sera plein de grâce comme un ruisseau. Donc on distingue la source, notre Seigneur Jésus-Christ, la rivière qui amène l'eau de la source au monde, la très sainte Vierge Marie, et Saint Étienne qui évidemment est alimenté avec une intensité de grâce inférieure à celle qui a alimenté le cœur et l'âme de la très sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle est pleine de grâce. Cependant, attention, la très sainte Vierge Marie, tout en étant la mère de Dieu, n'est pas Dieu, elle n'a pas la divinité. Vous savez qu'il y a une secte, qui heureusement, il y a peu de prétendants, mais il y a des gens qui appartiennent à cette secte, qui prétendent que la très sainte Vierge Marie est une déesse. C'est faux. La très sainte Vierge Marie n'a pas la divinité, elle est mère de la divinité, et donc étant mère d'un enfant qui est Dieu et homme, donc son enfant, notre Seigneur Jésus-Christ, a la nature humaine, mais il a aussi la nature divine, parce qu'il est en même temps que fils de la très sainte Vierge Marie, il est également fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc la très sainte Vierge Marie est réellement et véritablement Théotokos, mère de Dieu. Donc on doit dire, on doit attribuer à la très sainte Vierge Marie, c'est plus grand de son titre de gloire, le fait de mère de Dieu. Parfois, on entend dire aux gens, par certains catholiques, qui nous disent que le plus grand titre de gloire de la très sainte Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. À mon avis, c'est faux. Le plus grand titre de gloire de la très sainte Vierge Marie, c'est sa maternité divine. Et c'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle a tous ces titres extraordinaires, comme l'Immaculée Conception, comme l'Assomption, etc. Donc, la très sainte Vierge Marie est pleine de grâce comme une rivière. Donc, Saint Gabriel est envoyé pour préparer la chambre du nuptial pour le pudding des époux, pour célébrer le mariage entre le Créateur et la créature. Donc, Père de l'Église compare le mystère de l'incarnation à un mariage. Un mariage. C'est pour ça que dans les textes de l'Évangile qui parlent des invités à la noce, eh bien, cette noce et mystiquement représente le mariage de l'humanité avec la divinité, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation. Et donc, ce mystère de l'incarnation, le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ prend une chair humaine, ce mystère représente un mariage véritable entre l'humanité et la divinité. La très sainte Vierge Marie va doubler ses grâces jusqu'à sa mort. Tradition nous dit qu'elle est morte à 72 ans. L'Église ne s'est jamais prononcée pour savoir si elle est morte ou si elle s'est endormie. Vous savez que l'Église latine prêche plutôt la mort de la très sainte Vierge Marie, alors que l'Église grecque prêche plutôt sa dormition. Bon, quoi qu'il en soit, l'Église laisse libre dans ce domaine-là. Vous pouvez croire ce que vous voulez, ou qu'elle soit morte, ou qu'elle s'est endormie, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que son corps est au ciel. Elle est montée avec son corps et son âme au ciel, sans attendre la résurrection générale à la fin des temps, comme pour nous. Le bon Dieu n'ayant pas voulu que le corps de la très sainte Vierge Marie, qui avait servi de tabernacle à notre Seigneur Jésus-Christ, voit la corruption du tombeau. Donc dans le temple du sein de sa mère, qui est son temple, notre Seigneur Jésus-Christ va se revêtir des vêtements sacerdotaux dans lesquels il offre le sacrifice pour le monde. Et notre Seigneur Jésus-Christ, tout petit dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, est déjà grand prêtre en tant qu'homme. Donc Notre-Dame seule possède à la fois la virginité et la maternité. Liberté d'esprit sans perdre la compagnie d'un autre puisqu'elle était mariée à Saint-Joseph. Elle devint mère sans perdre sa chasteté virginale. Ça, c'est un des plus grand mystère de la foi catholique, comment une femme peut-elle être à la fois vierge et mère? Eh bien, c'est pourtant le titre extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie, qui est à la fois mère de Dieu tout en étant vierge. Donc, elle est la Vierge Marie, très sainte Vierge Marie. Notre chef, par un miracle éclatant, page 7 sur le polycopier, devait naître d'une vierge selon la chair, et figurait ainsi que l'Église vierge, l'Église catholique, donnerait à ses membres une naissance toute spirituelle. Marie était mariée. C'était un moyen de tromper le démon qui pensa avoir affaire à une naissance temporelle. Le bon Dieu n'a pas permis que le démon sache, de façon certaine, que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il avait des doutes, mais il n'avait pas compris tout le mystère de la rédemption, évidemment. Parce que si le démon avait compris que par la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-ci allait détruire de façon définitive le pouvoir du démon, le démon n'aurait jamais fait crucifier notre Seigneur. Donc le démon a fait crucifier notre Seigneur Jésus-Christ justement parce qu'il ignorait que notre Seigneur Jésus-Christ fut Dieu. Il n'a pas compris le mystère de la rédemption, qui était un grand mystère. Le bon Dieu n'a pas voulu que le démon le sache. C'est évident que si le démon avait su les conséquences de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, jamais il n'aurait fait crucifier notre Seigneur. Donc, les pères font remarquer que ceux qui sont plongés dans les préoccupations du monde sont incapables de comprendre les choses divines. Et le saint Thomas d'Aquin fait remarquer, dans une partie de la Somme, que particulièrement ceux qui sont plongés dans les péchés de la chair sont incapables de comprendre les choses divines. Parce que les plaisirs dans la chair sont tellement intenses qu'ils empêchent l'intelligence de s'ouvrir justement aux choses divines. Marie a enfanté le maître du monde, c'est pour ça qu'en syriaque le mot Marie veut dire maîtresse, et la lumière éternelle des siècles, donc parce qu'elle représente en hébreu le mot Marie, Myriam, représente le terme étoile de la mer. Notre Sainte Vierge Marie est donc maîtresse du monde et étoile de la mer, c'est-à-dire lumière du monde. Certains pères disent aussi qu'elle est la porte du ciel, dans le sens qu'elle est la porte, c'est quoi? La porte, c'est le passage par lequel le maître d'une maison entre ou sort de la maison. Et bien, la très sainte Vierge Marie est cette porte par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est passé du ciel à la terre et est passé de son tabernacle dans le sein de la très sainte Vierge Marie au monde pour commencer sa vie publique. Alors, les pères font remarquer que Saint Joseph, on est à la page 7 sur le polycopier, que Saint Joseph avait été préfiguré dans l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez savoir quel homme a été Joseph, dit Saint Bernard, souvenez-vous de ce patriarche Joseph dont il a porté le nom et possédé les vertus. On connaît très peu de choses sur Saint Joseph. Parce qu'on appelle le grand silencieux de l'évangile, parce qu'on n'a pas un seul mot de lui dans l'évangile. Notre Seigneur Jésus-Marie a parlé plusieurs fois, mais Saint Joseph, on n'a pas de phrase de lui dans l'évangile. C'était le grand silencieux, le grand adorant, le grand adorateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez la sainteté de Saint Joseph, qui a été chargé de commander à l'enfant Jésus, donc chargé de protéger la Sainte Famille. Dans la Sainte Famille, il y a l'enfant Jésus, notre Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Le moins saint des trois, c'est Saint Joseph. Et c'est pourtant le moins saint des trois qui est le chef de famille. Attention, être Sainte Vierge Marie respecte l'autorité de Saint Joseph. Et c'est Saint Joseph qui va prendre les grandes décisions, comme de partir en Égypte, de revenir après d'Égypte à Nazareth, parce qu'il est chef de famille. Et notre Sainte Vierge Marie a respecté cette autorité. Ceci le fait réfléchir. Parfois, certaines mères de famille, certaines épouses me disent, monsieur l'abbé, moi je ne veux pas respecter l'autorité de mon mari parce que mon mari est un païen, mon mari n'est pas très fervent, moi je suis beaucoup plus fervente que lui, donc c'est moi qui l'ai commandé dans la maison. Ben non. Non, parce qu'il reste chef de famille. Bon, il est évident que si un chef de famille se comporte de manière indigne, il va perdre une partie de sa dignité, c'est absolument évident. Que si un chef de famille commence à demander à son épouse des choses qui vont contre la foi et les mœurs, c'est évident que l'épouse ne peut pas obéir à son chef de famille, c'est évident. Mais il reste chef de famille, attention. Donc on trouve effectivement dans l'Ancien Testament beaucoup de symboles de Saint Joseph. Ici j'ai pris certains textes qui viennent des pères. Donc, Saint Joseph, le premier Joseph, qui va se retrouver vice-roi d'Égypte, est poursuivi par l'envie de ses frères, vendu, conduit en Égypte, et figurait la trahison qui devait être commise envers le Christ. Celui-ci, fuyant la jalousie d'Hérode, porta le Christ en Égypte. De la même façon que Joseph va se retrouver en Égypte, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est représenté par Joseph, va lui aussi se retrouver en Égypte. Donc le premier Joseph, gardant à son maître une fidélité inviolable, ne voulut point toucher la femme de ce maître. Celui-ci, connaissant la vertu de la mère de son Seigneur, lui servit de protecteur. Donc la chasteté du premier Joseph est symbole de la chasteté du deuxième Joseph, le père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier Joseph eut l'intelligence des songes. Celui-ci eut la révélation, la participation des plus hauts mystères. Le premier sut conserver le froment non seulement pour lui, mais pour tout le monde, puisqu'il a sauvé le peuple égyptien de la famine. Le deuxième, au contraire, eut la garde du pain de vie descendu du ciel pour lui et pour le monde entier. Les choses humaines ne sont pas comparées avec les choses divines. Cependant, cet ouvrier est bien l'image du Père de Jésus-Christ, qui nous travaille avec le feu et l'esprit, qui rabote nos vices, qui porte la cognée contre les arbres stériles, qui taille les branches parasites, donne de l'essor aux branches à fruits, et trempe et assouplit les âmes trop raides et sait préparer les hommes pour les fonctions les plus diverses. C'est la raison pour laquelle Saint Joseph est, à ce titre extraordinaire de gloire, il est patron de l'Église universelle. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie qui est patron de l'Église universelle, mais Saint Joseph. Il est patron de l'Église universelle par sa grande fête du 19 mars. Et il est également, on l'honore le 1er mai, une fête déclarée par le pape Pie XII, pour la fête du 1er mai, Saint Joseph artisan. Ce sont les deux grandes fêtes de Saint Joseph dans le calendrier liturgique, le 19 mars et le 1er mai. Donc j'insiste sur cette fête du 1er mai qui est très importante. Le pape Pie XII étant infaillible dans les déclarations liturgiques qui regardent l'Église universelle, ce qui est le cas pour cette fête du 1er mai, les catholiques sont obligés, sous peine de péché mortel, de reconnaître la fête du 1er mai. Donc les prêtres qui refusent l'autorité du pape Pie XII tout en le reconnaissant comme pape et qui refusent de célébrer la fête de Saint Joseph artisan le 1er mai, ben, pêchent gravement contre l'obéissance due au pape légitime, au dernier pape légitime. Attention à ces choses-là qui sont plus importantes qu'on ne le croit. Donc l'ange Gabriel était envoyé pour traiter avec cette Vierge du mariage de la créature avec le Créateur. Donc j'ai déjà expliqué que le mystère de l'incarnation représente le mariage mystique entre la créature, l'homme, et le Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils. Il y a dans le Christ, dit saint Augustin, deux naissances. Ça c'est très beau chez saint Augustin. Première naissance, un père sans mère. Deuxième naissance, une mère sans père. La naissance d'un père sans mère, c'est la naissance dans le sein de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ était éternellement engendré par la toute-puissance du Père. C'est la relation de paternité du Père au Fils, à laquelle correspond une relation de filiation du Fils au Père. Donc la relation de paternité et la relation de filiation sont deux relations différentes, ce qui explique que le Père et le Fils soient deux personnes différentes, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et la deuxième naissance, c'est la naissance miraculeuse depuis le sein de notre Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le sein de notre Sainte Vierge Marie sans l'intervention d'un père physique. Et ces deux naissances, toutes les deux, sont admirables. Donc Marie est ainsi la première des évangélistes. Ève a enfanté le mal et la mort, Marie le bien et la vie. Donc Marie va venir rattraper, la deuxième Ève vient rattraper le péché de la première Ève. De la même façon que le deuxième Adam vient rattraper le péché du premier Adam. Donc Adam est à Ève ce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la Très Sainte Vierge Marie. Donc il y a un lien entre notre Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge Marie comme il y avait un lien entre Adam et Ève. Adam et Ève sont unis dans le péché, alors que la Très Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ sont unis dans la rédemption de ce péché, c'est la rédemption du genre humain. Donc cette union est la plus grande qui existe après l'union des trois personnes divines. On appelle l'union hypostatique l'union de l'humanité, de la divinité en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après l'union des trois personnes en une seule nature, l'union la plus grande est celle de ces deux natures dans la même personne. Une personne s'incarne, la deuxième personne de notre Sainte Trinité. Donc la deuxième, dans notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une seule personne, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais une double nature, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Alors, il ne faut pas imaginer une espèce de mélange entre la divinité et l'humanité, pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il n'y a pas de mélange entre ces deux natures. Bon, là, c'est évident qu'on touche un mystère insondable, qui est à la base de toute la foi catholique. S'il n'y avait pas eu l'incarnation, il n'y aurait pas eu la rédemption. Hein. Donc il y a la Sainte Trinité qui permet l'incarnation, laquelle permet le mystère de la rédemption. Mais cette union des deux natures en notre Seigneur Jésus-Christ est certainement un des plus grands mystères de la foi catholique. Comment est-il possible qu'une même personne soit Dieu et homme sans qu'il y ait un mélange justement entre cette humanité et cette divinité? C'est un mystère insondable. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'hérétiques au cours de l'histoire de l'Église qui ont nié soit l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, soit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a même des hérétiques qui ont dit qu'il y avait deux personnes entre Seigneur Jésus-Christ. Donc une personne humaine et une personne divine. Ce sont toutes les hérésies qui ont donné les hérésies macédoniennes, les hérésies monophysites, les hérésies monothélites et toutes ces hérésies-là. Et c'est parce qu'il y a deux natures en notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y a évidemment deux intelligences en notre Seigneur Jésus-Christ, une intelligence divine, une intelligence humaine, deux volontés en notre Seigneur Jésus-Christ, une volonté humaine, une volonté divine, avec la volonté humaine qui est parfaitement soumise à la volonté divine et l'intelligence humaine qui est parfaitement soumise à l'intelligence divine. Donc toutes ces hérésies tournent autour aussi du nestorianisme, sont des hérésies qui ont fait énormément de mal dans l'Église, et qui ont encore malheureusement des sectataires aujourd'hui. Entre autres, si mes souvenirs sont exacts, dans l'église d'Arménie. Les Arméniens, il y a des Arméniens catholiques, mais il y a des Arméniens qui sont hérétiques parce qu'ils sont justement issus, justement, le monothélisme, encore aujourd'hui. Donc, il faut savoir que cette union hypostatique, cette union entre l'humanité et la divinité, est la plus grande union qui soit, qui puisse exister après l'union des trois personnes divines. Donc, l'union des trois personnes divines est encore plus extraordinaire. Cette union des trois personnes divines est à la fois, si vous voulez, une trilogie de personnes. Il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais dans une unité de substance, les trois personnes sont consubstantielles. Elles ont la même substance divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité. Cependant, attendez, où est-ce que j'en suis ? Oui, cependant, dit saint Thomas d'Aquin, il y a des infirmités qui répugnent à la perfection de la science et de la grâce, comme l'ignorance, le penchant au mal ou la répugnance au bien. C'est évident qu'il n'y avait pas notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il était parfaitement homme, il n'y avait pas des choses qui étaient incompatibles avec sa sainteté personnelle. Donc il y avait tout en lui, sauf le péché. Sauf le péché. Donc il y avait une ignorance naturelle chez notre Seigneur Jésus-Christ, en sens qu'il avait une science expérimentale. C'est encore une fois, c'est un très grand mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, mais était aussi homme. Et en tant qu'homme, il a appris. Il a dû apprendre. Bon, l'Évangile ne dit pas si notre Seigneur Jésus-Christ est allé à l'école, ça n'en sait rien. Vraisemblablement oui, s'il y avait une école sur place. Il a dû suivre, il a suivi une vie d'enfant normale, bien qu'il était Dieu. Donc il ne faut pas imaginer non plus notre Seigneur Jésus-Christ comme un enfant tellement extraordinaire qu'il faisait des miracles à longueur de journée. Non, tous les soi-disant miracles de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ sont condamnés par l'Église. Il n'y a pas eu de miracle avant le premier miracle, qui est le miracle de la transformation de l'eau en vin à Cana de Galilée. C'était le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'Église a rejeté toutes les publications apocryphes de textes très ancien, d'origine apostolique, du temps des apôtres, mais qui racontait des miracles de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est contre la foi catholique. Attention. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'avait évidemment pas de concupiscence, il n'avait pas de faiblesse, il n'avait aucun pas d'ignorance, ni de malice, ni de faiblesse, ni de concupiscence, bien sûr, parce qu'il n'avait pas le péché originel. Il n'avait pas le péché originel. Attention à ça. Donc il y a des infirmités qui proviennent d'un sang vicié, comme la lèpre, le mal caduc. Ces infirmités, nous ne pouvons les attribuer au Christ. Mais toutes les infirmités que l'on peut appeler naturelles et non déshonorantes, dit Saint Jean Damascène, il les accepta. Donc il y avait notre Seigneur Jésus-Christ, une science expérimentale, une science qu'il a acquise par l'expérience, qui était couplée à une science infuse, une science divine, parce qu'il était Dieu. Donc, là, c'est important de bien comprendre cela, c'est saint Thomas d'Aquin, là, encore une fois, il y eut en Jésus-Christ toute vertu, et toute vertu dans sa perfection, sauf, toutefois, les vertus qui étaient incompatibles avec l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est l'union entre la divinité et l'humanité. Donc, il y avait en notre Seigneur Jésus-Christ, ni la foi, ni l'espérance. Parce que la foi, c'est quoi ? La foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est espérer en quelque chose qu'on ne possède pas encore. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas avoir la foi puisqu'il avait la vision béatifique. C'est pour ça qu'au ciel, la foi n'est pas nécessaire. Au ciel, il n'y aura ni la foi, ni l'espérance. Il y aura la charité, d'ailleurs augmentée à un degré incroyable, mais il n'y aura pas de foi et pas d'espérance, parce que la foi et l'espérance ne sont pas utiles au ciel. On n'a pas besoin de croire et d'espérer en un Dieu qu'on ne voit pas au ciel, puisqu'on le voit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la foi. Il n'avait pas non plus l'espérance. Il ne pouvait avoir l'espérance de posséder Dieu puisqu'il le possédait déjà. Mais il avait une espérance se portant bien inférieure qu'il ne possédait pas encore, par exemple, la glorification de son humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ également ne pouvait avoir la pénitence qui se repent et s'humilie des fautes personnelles, puisqu'il n'avait aucune faute, bien que Jésus, chargé des fautes de tout le genre humain et les expiant, ait pu être appelé le premier des pénitents. Nous, on fait pénitence par mode de justice. On doit faire pénitence en réparation de nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ fait pénitence par amour pour nous, mais pas du tout par mode de justice, puisqu'il est coupable d'aucun péché. Notre Seigneur Jésus-Christ est innocent. et répare nos péchés. C'est-à-dire que nous, nous sommes coupables, nous ne voulons pas faire pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit innocent, prend sur lui le poids des péchés du monde. C'est un point important, donc bien comprendre qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait ni la foi, ni l'espérance. Par contre, il y avait la charité. Il y avait la charité, il est la charité incarnée. Hein? Deus caritas est, Dieu est charité, Dieu est amour. Donc vous me demandez, disait le cardinal de Coussin, comment on peut acquérir la sainteté, puisque la sainteté est une déiformité. Je réponds, on y arrive sûrement par la christiformité, c'est-à-dire en devenant semblable au Christ. Notre Seigneur, on peut devenir semblable au Christ au niveau de notre humanité, pas de sa divinité. On ne peut pas devenir comme Dieu puisqu'on n'est pas Dieu. Cependant, on peut, notre Seigneur Jésus-Christ a pris une nature humaine comme la nôtre, en tout identique à la nôtre, sauf le péché, pour justement nous montrer le chemin, et on peut imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes les vertus qu'il a pratiquées, par exemple la vertu de charité, la vertu de d'obéissance, la vertu de chasteté, la vertu de pauvreté, etc. Donc la racine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la race juive. Alors attention, encore une fois, attention à ces bêtises qu'on entend régulièrement. Moi, j'en entendais pas mal de fois, surtout quand j'étais aux États-Unis. Des gens qui sont de façon incontrôlée anti-juifs et qui en arrivent à dire qu'il n'est pas possible que notre Seigneur, qu'on n'a pas le droit de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi juive. À chaque fois que je disais ça dans la chapelle de Richfield, le Connecticut américain, quand j'étais en fraternité Saint-Pélis, il y avait une femme qui réagissait en disant « Non, on ne pouvait pas dire ça, Notre-Dame était pas de race juive. » Mais bien sûr que Notre-Dame était de race juive. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, était de race juive. Il est bien précisé que Saint-Joseph et la Très Sainte Vierge Marie étaient de la tribu de David. Donc tous les deux, Saint-Joseph et la Très Sainte Vierge Marie, étaient de race juive. Certes, Saint-Joseph n'est pas intervenu dans la génération de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la Très Sainte Vierge Marie, oui. Donc elle a transmis cette race juive en tant dans l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la racine, c'est la race juive. La tige, c'est la Vierge Marie. Le Christ, c'est la fleur de Marie. Comme le fruit d'un arbre excellent, il est en nous tantôt fleur, tantôt fruit, selon les progrès de notre vertu. Et plus tard, dans la résurrection de notre corps, il redevient un fruit nouveau. Dans le mystère de la visitation, nous pouvons connaître le mode dans lequel Jésus-Christ aimera à se communiquer aux âmes par le ministère de Marie. Donc c'est important de reconnaître que la race de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu naître dans une race spécifique, la race juive. C'est pas dire qu'il est de religion juive, bien sûr, puisque notre Seigneur Jésus-Christ va abolir la religion juive, qui va devenir une religion mortifère après, justement, la rédemption, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien pour cela que le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas pour bien montrer la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve par son Église, qui est l'Église catholique et qui n'est plus l'Église juive. Cependant, l'Église juive est la racine de l'Église catholique. Donc, les jours des justes sont des jours pleins, et les jours des pécheurs sont au contraire des jours vides, des jours perdus. Eh bien, cette expression des pères qui compare les jours pleins et les jours vides. Alors, ayons prenons soin d'avoir des jours pleins dans notre vie. Chaque jour qui est passé en état de grâce est un jour plein. Chaque jour passé en état de péché mortel est un jour vide. N'oublions pas qu'à chaque fois que nous commettons une faute grave, nous perdons tous les mérites que nous avons emmagasinés au cours de notre vie. Donc si je meurs après un péché mortel, ben, tous les mérites que j'ai pu gagner pendant ma vie, tout ça est perdu. J'ai plus rien. Je vais arriver devant Dieu les mains pleines. Si au contraire, même après un péché mortel, je fais une bonne confession avec un haut degré de charité, eh bien je peux récupérer partie, voire même totalité, de tous les mérites de ma vie avant le péché. Avant mon péché. C'est pour ça que lorsqu'on gagne par exemple une indulgence plénière, on regagne tous les mérites qu'on avait emmagasinés avant de commettre le péché mortel qui nous a fait perdre la grâce du bon Dieu. Il convenait, dit saint Ambroise, que la foi délia cette langue qui avait été liée par l'incrédulité. Croyons nous aussi, et notre langue qui demeure embarrassée tant que nous sommes dans les liens de l'incrédulité saura trouver des paroles pleines de raison.
Si nous voulons savoir parler, sachons écrire en esprit les mystères de Dieu. Sachons écrire non sur des tablettes, mais dans nos cœurs, tout ce qui annonce le Christ. D'où la nécessité d'être en état de grâce. Un homme qui est en état de grâce est un homme qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ, non pas sur des tablettes, qui écrit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas sur des tablettes, mais en lettres d'or dans son propre cœur. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, eh bien, nous vénérons notre Seigneur Jésus-Christ. Un cœur en état de grâce, c'est un cœur avec le tabernacle du Très-Haut dans ce cœur. Au contraire, un cœur en état de péché mortel, c'est un cœur sur l'autel duquel le bon Dieu vient, et on a crucifié le bon Dieu par le péché mortel. Alors, déjà, dit Saint Maxime de Turin, Adam n'avait-il pas vu et prophétisé le mystère du Christ et de son Église naissant de la blessure de son cœur en son épouse Ève formée de l'une de ses côtes. Il est figuré dans son immolation par Abel, victime de la haine de son frère. Vous voyez, on voit ici dans l'Ancien Testament de nombreux symboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les grands patriarches sont des symboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Isaac, un symbole. Jacob aussi, etc. Et là, on trouve évidemment dans Abel, tué par son frère, victime de la haine de son frère, une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui va être victime de la haine du démon, la haine des princes des Juifs, qui vont le tuer justement à cause de cette haine. Donc notre Seigneur est figuré également et attendu par Noé, qui est sauvegardé pour être le père d'une race nouvelle. C'est une race nouvelle qui va sortir, si vous voulez, de l'arche de Noé, de même que la vie va sortir du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ouvert sur la croix, comme un lieu de refuge. De la même façon, Noé, par anticipation, va ouvrir la porte latérale de l'arche de Noé pour envoyer la colombe qui va revenir avec un rameau d'olivier dans son bec pour expliquer que la vie est de nouveau possible sur la terre. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est également figuré dans son sacrifice, pour le sacrifice qu'offre Abraham. Abraham va à qui on a demandé d'immoler son fils Isaac, donc il va monter au mont qui est en fait le mont du Calvaire pour immoler son fils. Et c'est là où Dieu va intervenir, envoyer un ange pour arrêter le couteau sacrificateur d'Abraham. Donc le sacrifice qu'offre le patriarche Abraham, avancé en âge, est la figure de sacrifice qui sera offert pour le monde devenu vieux. La vieillesse du monde qui est sauvée par la jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand le pieux parricide, c'est Abraham dont il s'agit ici, quand le pieux parricide se prépare à l'immolation de son fils unique, Isaac, un bélier lui apparaît, les cornes prises dans les épines, symbole de celui qui sera captif de nos péchés et livré à la mort à cause d'eux. Et ainsi, il y aura un double sacrifice représentant les deux natures qui sont réellement offertes du Fils de Dieu et du Fils de la Vierge. Il est attendu et figuré en Moïse qui sépare les eaux de la mer et ouvre à son peuple un chemin au milieu de ses flots suspendus. Donc, encore un autre symbole, justement, la traversée de la mer Rouge. L'ange qui va venir exterminer les premiers-nés des Juifs, des Égyptiens, et qui va protéger les maisons qui sont marquées du sang de l'agneau, tout ça sont des symboles du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent un peu travailler ces choses-là, je vous conseille beaucoup les livres de Don de Montléon. Entre autres, le livre sur les patriarches, qui est remarquable. Ils sont tous remarquables. Tous les livres de Don de Montléon sont excellents. Donc, ils donnent très bien l'interprétation des pères de l'Église, justement, pour expliquer comment les pères de l'Église parlent de l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc, je vous rappelle, je vous l'ai déjà expliqué dans mon introduction, comme il est important de... d'interpréter l'Écriture sainte, non pas selon nos lumières personnelles, mais au contraire d'interpréter l'Écriture sainte selon les lumières de l'Église catholique. On interprète en suivant les pères de l'Église, surtout Saint Jérôme, qui est de tous les pères de l'Église est certainement le plus important en matière d'exégèse. C'est comme Saint Jérôme qui est le plus grand des pères de l'Église. Donc attention à toutes ces choses-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Donc je vous rappelle que j'ai encore deux places. Donc je l'ai déjà dit, mais je répète. Deux places pour la prochaine retraite du mois de juin, 22 au 27 juin. Donc vous pouvez vous y inscrire si vous voulez. J'espère pouvoir arriver à remplir chacune des trois dernières retraites qui restent, à savoir juin et septembre. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.